Voilà. Donc ces derniers temps, nous réfléchissons à quoi ? Vous vous rappelez ? Depuis 15 jours, la place de la femme dans l'expansion de l'Évangile. Ce matin, on va parler un peu de l'Église. La place de la femme, ce n'est pas qu'il y a une place qu'on veut exclure, mais c'est au contraire pour essayer d'organiser et de bien comprendre comment Dieu, lui, a conçu les choses. Dans notre monde, on essaye de changer un peu le programme. Alors là, je ne vais pas vous remettre l'affiche en élisant Jésus pour président, puisque c'est déjà fait. Donc la place des femmes, message numéro 3. Ces dernières semaines, nous avons entrepris de considérer la place de la femme dans l'expansion de l'Évangile et la multiplication des églises au 1er siècle et aujourd'hui. On a vu que cette place était centrale, vitale. Centrale, ça veut dire qu'elle a une place excessivement importante. On a vu pas mal de dames. Hein. On a trouvé, ou j'ai défié de trouver 24 dames qui faisaient partie de l'équipe paulinienne. Et on a vu qu'elles avaient une place vitale. Voilà, c'est bien. Elles avaient un rôle vital dans la stabilité de leur foyer. Rôle important auprès des enfants, des frères et sœurs, dans l'assemblée, exerçant l'hospitalité. Elles venaient à Christ et elles ouvraient leur maison pour que l'Église commence, pour que l'Église prenne place. On a vu qu'elles avaient un rôle vital dans la conduite de leur foyer à Christ, 1 Pierre chapitre 3. Ou même elles pouvaient gagner leur mari inconverti en se taisant, mais juste en agissant. On a du mal, hein, on pense que pour convaincre, il faut parler. Mais souvent, les gens qui parlent le plus n'arrivent pas à convaincre. Hein. Il faut des actes. Et la Bible dit que les dames au 1er siècle ont eu ce rôle et qu'aujourd'hui, elles doivent aussi avoir ce rôle. En accueillant l'Église chez elles, en formant des équipes avec leurs époux, hein, qui ont pu, avec Priscilla et Aquilas, qui ont pu aider Apollos, jeune et talentueux orateur, à comprendre l'entier du texte, l'entier du plan de Dieu, et de pouvoir transmettre l'Évangile. Et Apollos a été un des collaborateurs pertinents de l'apôtre Paul. En étant partenaire avec les serviteurs de Christ. Partenaire, ça veut dire aussi supporter, ça veut dire accompagner, ça veut dire ouvrir des portes, ça veut dire prier, ça veut dire aider financièrement. Et la Bible regorge de personnes qui se sont mis au service des serviteurs pour que l'Évangile avance. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que si aujourd'hui, le 13 mai 2012, nous sommes assis là, ça veut dire que des gens ont été fidèles. Tout au long des siècles, siècle après siècle, malgré l'opposition, malgré la guerre ouverte, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir l'Évangile, que nous puissions célébrer Dieu. Il a fallu que des gens soient fidèles, mais à leur place. Et des dames ont été ses partenaires, et souvent on rencontre beaucoup de dames partenaires de l'Évangile, en faisant partie des infrastructures, des missions, pour le développement de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'il y avait un grand enjeu. Souvent, on banalise un petit peu. Hein. Vendredi, je disais à ceux qui étaient là que parfois, on pêche et on pense que ça nous touche juste nous. Mais que finalement, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ça a un impact. Et là, j'avais pris ce verset de 1 Pierre 3,7 qui s'adressait à vous, messieurs. Marie, et là, il n'y a pas de « e », il y a un « s ». Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et là, il est marqué qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et on a vu, et on le reverra un petit peu ce matin, dans ce chapitre 2 du livre de Tite, Tite 2,5, où les femmes âgées, les femmes d'expérience, ont une tâche vis-à-vis des autres dames pour qu'elles soient, aux plus jeunes, il est marqué, à être pondérées, chastes, occupées aux travaux domestiques, bonnes, soumises à leur mari, pour que on ne calomnie pas la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul fait cet écart entre le parler et l'agir. On oppose un peu Paul et Jacques, parce que Paul dit on est sauvé par la foi seul, et Jacques dit on est sauvé aussi par les œuvres, parce que finalement on montre par nos œuvres qu'on est sauvé. Ils ne sont pas opposés, ils disent la même chose, sauf que l'un dit ce que devrait dire l'autre. J'ai un ami récemment que j'ai rencontré, qui a écrit ce livre-là, c'est dernier livre, et... Quand j'ai vu le livre, j'ai dit « Ah, c'est le livre que mon frère Maurice, il aurait dû avoir. » Vous savez, Richard Maurice, c'est le monsieur qui est venu au mois de décembre avec nous, là, nous parler de ce sujet-là. J'ai dit « Ah, c'est le livre que Richard aurait dû avoir avec lui. » Il dit « Ouais, c'est le livre que lui voulait écrire, mais c'est moi qui l'ai écrit. » Et ce qui est incroyable, c'est que dans l'œuvre de Dieu, le partenariat permet des choses extraordinaires. Le partenariat, quand il est bien fait, permet à l'évangile de progresser, où chacun... joue son rôle. C'est un peu comme la transmission du bâton. Nous avons un rôle important et si nous ne remplissons pas ce rôle de la bonne façon, l'évangile va s'arrêter. L'évangile parfois est bloqué parce que nous sommes bloqués, têtus, obtus. Non, ça c'est moi qui dois le faire. Je ne permettrai à personne d'autre de le faire. Et Dieu dit, c'est moi qui décide. Première chose, que notre vie de prière ne soit pas bloquée, qu'il n'y ait pas d'obstacle, pour que l'on ne calomnie pas la parole de Dieu. C'est Dieu dans nos vies, mes amis. Nous disons que Dieu habite, ce n'est plus moi qui vis. C'est quoi la suite ? C'est Christ qui vit en moi. Des jours, on lui dit, bon, attends, je voudrais bien être seul. Tu pourrais sortir 2 minutes. Non ? C'est pas possible. Dieu a fait ça, résidence permanente en nous. Il est là. Mais des fois, on aimerait bien reprendre la place. Hein. L'objet, l'intérêt, ce que Dieu vise, c'est à mettre de l'ordre dans sa maison. On oublie parfois. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être remis à sa place. C'est que l'Église de Dieu lui appartient. Elle lui appartient. Ce n'est pas l'église du pasteur un tel, de monsieur un tel ou de madame un tel. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Dieu. C'est lui qui en est l'architecte. C'est lui qui en est la pierre angulaire. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui convainc. C'est lui qui envoie. C'est lui qui prépare. C'est lui qui donne. Et en fait, quand il dit « je veux mettre de l'ordre », c'est parce que nous avons un peu de mal à entendre. Nous avons notre écouteur qui d'un seul coup a besoin de réglage. Dans 1 Timothée 3,14, Paul écrit à Timothée et lui dit, alors qu'il est en prison, je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir, mais au cas où il y ait des bouchons, au cas où il y ait la grève à Air France, si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Dieu, là, mes amis, ce n'est pas le 177. Ce n'est pas ici. Ça en fait partie. Mais c'est un tout petit morceau d'un grand morceau, en fait. Nous sommes l'église. Nous sommes tous des pierres vivantes rajoutées. Et en fait, se conduire, ce n'est pas se conduire le dimanche matin de 10h30 à 12h15. Mais c'est se conduire après 12h15 et jusqu'à 10h30 de la semaine d'après. Parce que la façon d'agir, la façon de réfléchir l'évangile, la façon de refléter l'évangile, c'est ça que Dieu change dans nos vies. Et fait de nous des gens différents. Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas de telle ou telle manière? Pourquoi on ne réagit pas de telle ou telle manière? Parce que Dieu est en nous. Parce que Dieu nous donne la liberté de ne plus pécher. Nous sommes pécheurs. Non, nous sommes sauvés par grâce. Pécheurs, c'était avant. Dieu nous donne, vous vous rappelez le jour où j'avais fait le message sur l'identité, une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Dieu nous donne quelque chose de nouveau, un esprit nouveau. des yeux nouveaux, une réflexion nouvelle, neuve, que nous avons besoin d'apprendre, de découvrir. Quand on va dans un espace qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui nous arrive ? On doit s'adapter, on doit... Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on fait ? Dieu ne nous dit pas de faire comme on faisait avant, mais il nous donne de pouvoir le faire là. Voilà comment, quel est l'objet de Dieu ? Apprendre à toute personne inclue dans sa maison de quelle manière il doit agir. Et lorsqu'il s'adresse aux dames, il a un message tout particulier à leur donner. C'est difficile pour un homme de dire aux dames. Et moi, j'essaie de le faire avec ce que la Bible dit. C'est pour ça que je prends un peu de temps, ces derniers temps, pour couvrir ce texte. Parce que c'est important que les dames, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, on apprenne à comment conduire notre vie, à mieux appréhender, saisir, prendre cette nouvelle identité pour que Dieu soit exalté, pour que Dieu soit viabilisé dans nos vies, pour que Dieu soit vu. C'est par l'amour dont vos actes seront empreints. C'est quoi ? Jean 13, 35. Qu'ils verront que vous êtes chrétiens. C'est par la haine, l'amertume, la méchanceté qu'ils verront que vous êtes mes enfants. C'est pas le texte. Regardez Jean 13, 34. Si, peut-être je cite un texte que vous ne connaissez pas bien, pourtant vous le connaissez. C'est l'évangile de Jean. Il n'était pas dans le texte ce matin, mais on va le lire. Verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. » Tout le monde y est ? Jean 13, l'évangile. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. » Il y a une limite là. « Oh, moi je connais les 52 versets que le pasteur il va nous faire apprendre. » Ça ne fait pas de moi un disciple. Si je les mets en pratique, oui. « Ah, moi je sais exactement... » Plein de livres dans la Bible. Ce n'est pas ça qui fait de moi un disciple. Ce qui fait de moi un disciple, c'est que j'ai appréhendé cette nouvelle nature que Dieu me donne. Et que je veux remplir exactement la place, le rôle, l'endroit où Dieu m'appelle. Si nos vies ne sont pas en ordre, si nos couples ne sont pas en ordre, et ce matin un couple s'est mis en ordre, amen, ne sont pas en ordre, alors mes amis, dans l'église, ce sera le désordre. C'est intéressant que on voudrait que tout le monde soit bien alors que nous, il y a un problème. Alors, c'est le bazar dans l'église. Combien de fois, hein, ces 25, 20 et quelques années, pardon, 25 ans encore, les gens sont venus me voir en disant « Oh, mais dans votre église, quel bazar !» J'ai dit « Mais vous faites partie de l'église, vous ?»« Ben oui, alors il faut nous aider à mettre de l'ordre. » Je vois facilement la poutre qui est dans l'œil de mon voisin, la paille plutôt. Ah, mais il est un peu gêné par la poutre que j'ai dans le mien. Un Corinthiens chapitre 11. Paul, ce matin, voudrait attirer notre attention. Il dit ceci. Un Corinthiens chapitre 11, verset 3. Vous savez, un Corinthiens 11, c'est le texte qu'on utilise où la femme doit être couverte ou... Au verset 23, c'est le thème de la Sainte Cène aussi. Il dit, je voudrais simplement attirer votre attention sur un point. Voilà le point. Le Christ est le chef de tout homme. Et regardez bien la phrase d'après. L'homme est le chef de la femme, pas des femmes de l'Église. Le chef du Christ, c'est Dieu. Dieu a mis un lien. Il a dit, le chef de tout homme, c'est Christ, celui qui décide, celui qui est sauveur, celui qui est leader, celui qui a donné sa vie Celui qui conduit, c'est Christ. Et Dieu a donné pour chef, autorité à sa femme, l'homme. Mais il a des comptes à rendre. Et vous rappelez que dans Éphésiens 5, ce magnifique verset qu'on cite à moitié, « Femme, soyez soumise !» dans une pipe. Et c'est marqué quoi après ? C'est marqué quoi ? Non, ouais, c'est intéressant. On ne connaît pas la fin du verset. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. » Comme à Christ. Comme à Christ, comme au Seigneur. C'est intéressant parce qu'on n'arrive pas à obéir à nos autorités. Mais on dit qu'on obéit à Dieu, il n'est pas là, il n'est pas, on ne le voit pas, alors on fait ce qu'on veut. Et c'est intéressant que Dieu, il a mis une relation horizontale. Et il a fait de nous, vous savez qu'actuellement en Espagne, il y a les insoumis sur la place à Madrid. Hein. Et moi je pense souvent que nous chrétiens, on est un paquet d'insoumis. Et on manifeste et on fait grève. Seigneur, t'as écrit des trucs, mais moi j'aimerais bien te demander au ciel, là, parce que quand même t'as mis un peu la galère dans l'église. Hein. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme à Christ, comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'objet, c'est Christ. Celui à qui on doit le respect. Si Dieu a créé des choses dans l'ordre, c'est qu'il veut que ça marche comme ça. C'est pas l'homme qui a décrété, c'est pas la femme qui doit décréter. C'est pas les enfants qui doivent devenir enfants rois et décider qu'est-ce qui se passe dans les familles. Éphésiens 5, Éphésiens 6, mes amis, je vous avais demandé de les lire. Voilà, c'est décrit. Même les relations, on va y revenir ce matin, employeur-employé. Vous savez, nos chers patrons qui gagnent de l'argent sur notre dos, qui nous exploitent, qui nous infligent des cadences infernales, qui nous volent, qui trichent. Et nous, on ne triche pas. On ne vole pas. Christ est donc le chef, la tête de tout chrétien. Il n'y a pas de négociation possible, pas d'interprétation autre, on ne doit pas l'oublier. C'est ça que Paul dit. Il dit, je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est une chose qui est liée. On ne doit pas l'oublier. Soumis comme à Christ, aimé comme, il y a deuxième, Christ. Est-ce que notre amour est comme Christ ? J'en doute. Vous imaginez si chacun d'entre nous, nous élevions le débat à dire « Je vais aimer les autres comme Christ a aimé. » Ouh. « Ah Seigneur, je veux bien me soumettre à toi, mais pas aux hommes. Hein. » Application. Notre obéissance, notre soumission, notre attitude, notre caractère, en public comme en privé, se doit d'exprimer notre lien à Christ. Si nous disons que nous sommes les enfants, si vous dites, mes sœurs, que vous êtes les enfants de Dieu, alors, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire ? Et là, quand il parle d'être soumis, d'obéir, c'est lui qui le demande. Christ lui-même a accepté un rang inférieur, une soumission, une obéissance en tant que fils au Père dans l'acte de rédemption, allant jusqu'à la mort. Messieurs, notre tâche, elle est de protéger nos enfants, nos épouses de la même façon, jusqu'à la mort. La femme, selon la Bible, se doit de se soumettre à son mari comme à Christ. C'est des textes qu'on n'aime pas entendre, hein, qu'on n'aime pas trop voir, parce que nos maris, on ne va pas tous les appeler, enfin vous les dames, hein, comme Sarah appelait son mari, Seigneur, mon Seigneur, vous imaginez à midi, mon Seigneur. Votre mari va vous regarder et dire, ça va pas bien. Ou alors, ah quand même, ça y est, t'as mis tout ce temps. C'est Dieu notre Seigneur. Et imaginez comment serait notre monde. Comment deviendrait la ville de Vigneux si d'un seul coup, dans nos vies, ces textes, on les appliquait. Si d'un seul coup, on disait au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. » Alors il y en a peut-être qui se disent, « Ouais, là, il exagère. » Mais c'est la Bible qui le dit. Trois types de relations. On voit dans Éphésiens 5, 22 à 33, mari et femme. Et là, il dépeint les choses. Soumettez-vous les uns aux autres. De quelle manière? Vous, femmes, à vos maris. Marie, comme à Christ. Christ, avec Dieu. Parents, enfants. Aujourd'hui, au domaine de l'enfant roi. C'est l'enfant qui décide. C'est l'enfant qui veut. Hein. Dans quelques années, mes amis, l'objet hein, qui est fixé depuis 10 ans, c'est d'amener la majorité légale des enfants à 13 ans. Comme dans les pays libéraux. Et les gens veulent y arriver. Pour que finalement, l'autorité parentale disparaisse. Pour que l'enfant devienne le roi. Et la Bible défie. Hein. Mais là, elle dit aussi, père, n'irritez pas vos enfants. Et enfants, obéissez à vos parents. Et maître et serviteur, ça c'est le domaine où on n'aime pas trop. Patron. Il y a des patrons chrétiens aussi. Hein. Mais la majorité d'entre nous, nous sommes serviteurs, n'est-ce pas ? Employés. Et il est marqué de leur obéir, pas simplement quand ils nous voient, mais quand ils ne nous voient pas. Vous savez, quand le patron n'est pas là, le chef d'équipe n'est pas là, hein, c'est le temps de repos. On attend qu'ils reviennent. L'Église, qui est l'ensemble de ces différents groupes, se tient sous l'autorité de Christ, qui est notre tête, notre Seigneur et notre Maître. Alors il y a un nouveau défi. On vient de changer de président. Et nous devons envisager de lui être soumis. On regarde les 60 promesses qu'il a faites, on a dit maintenant on va voir. 1 Timothée 2, chapitre 1, verset 1 dit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. » Et regardez bien, là je l'ai souligné, je l'ai mis en gras, « afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » On n'a pas le choix, mes amis. On veut bien négocier. Il n'est pas du même bord politique que moi, il a été trop loin, il a été agressif, il a fait ceci, il a fait cela, je ne vais pas le respecter. Alors là, tiens, il peut toujours se brosser. La Bible dit quoi ? Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Waouh ! Priez pour le président de la République, priez pour les élus, nos élus locaux, les élus régionaux, les députés, de pouvoir rendre grâce qu'il y en a. Même si ce n'est peut-être pas ce qu'on veut. Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Vous avez vu, c'est un nouveau défi encore. Afin que la parole ne soit pas calomniée, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à votre vie de prière, et afin que nous menions une vie paisible. Parce que nous obéissons à Dieu, mes amis. Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et si nous, on ne sait pas pourquoi, lui, il sait. Mais si on prie pour nos autorités, si on prie pour nos élus, nous allons agir de la bonne façon. Et si on prie pour eux, on ne va pas crier sur eux, on ne va pas leur jeter des bouteilles vides, des canettes. Mais on va pouvoir agir comme Christ nous le demande. Dans 1 Timothée 2, 8, il est marqué « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Ah, ça c'est dur pour les hommes. Hein. Sans colère. Des fois, on voudrait que la justice de Dieu, ça soit nous qui la fassions. Hein. « Seigneur, je vais te dire, tu sais, pour machin, voilà ce qu'il faut lui faire. » Ça l'aiderait bien, lui. Et le Seigneur, il nous regarde et dit « Tu veux que je te fasse quelque chose à toi ?» qui t'apprennent que c'est moi qui décide, sans colère, ni mauvaise pensée. Les hommes sont appelés à prier Dieu afin d'accomplir leur tâche de la meilleure manière. Qu'ils aient une attitude juste, protectrice, directrice, sacrificielle. Cela fait partie de notre responsabilité. Si on dit « Christ vit en moi » et qu'on n'a pas cette attitude-là, il faut chercher où il est alors. Peut-être on avait laissé la porte ouverte. Vous savez, on dit une visite, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas en venant, c'est en partant. Mais Dieu n'est pas en simple visite. Il a dit qu'il faisait sa résidence chez nous. Et on a besoin d'apprendre, homme-femme, comment agir. Quelle est notre responsabilité? Quel est le défi que Dieu nous lance? Et là, vous avez vu, la parole de Dieu est en jeu. On va inviter nos voisins, on voudrait que nos voisins deviennent chrétiens, mais comment ils nous voient vivre? On voudrait inviter nos parents, nos familles, mais qu'est-ce qu'ils voient chez nous? Il y a un défi, n'est-ce pas? Mettre nos vies en règle, obéir. Les femmes sont appelées dans le cadre de l'Église à laisser les hommes, à laisser aux hommes, l'exercice de diriger et d'enseigner. C'est la tâche, c'est leur responsabilité. Et j'aimerais dire que ce n'est pas toujours facile. Quel conseil tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est Dieu qui a décidé ces choses-là. À Timothée de 9, je vois aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ce n'est pas marqué qu'elles n'aient pas en portée, mais que ça ne soit pas leur parure. Leur parure, ça veut dire ce en quoi elles se confient. Ce qu'ils veulent, c'est l'intérieur. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et là, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est un texte difficile dans le contexte aujourd'hui, dans le texte de l'égalité, dans le contexte de la parité, n'est-ce pas? Heureusement, on dit que notre pays évolue. Je ne sais pas s'il évolue ou s'il dévolue. Nous avons une structure sociale. Ce n'est pas simplement avec Gisèle. Afin qu'une église s'affermisse et tienne ferme, elle a besoin d'affermir chaque personne dans sa situation de vie. Elle est appelée à résister à Satan et à s'évertuer à se multiplier. Pour cela, chaque personne a besoin d'être à sa place et de fonctionner conformément à son appel, à sa place. Imaginez qu'un constructeur de voiture décide de mettre des roues carrées à votre voiture. C'est plus joli, c'est plus original. On va avoir du mal à la faire rouler, la voiture. Ou dire, oh, le moteur, ça pèse trop lourd, je vais mettre autre chose devant. Ou changer le volant. Si je t'ai laissé en Crète, dit Paul à Tite, c'est pour que tu mettes en bon ordre ce qui est resté à régler, que tu nommes des anciens dans chaque ville selon ce que je t'ai toi-même prescrit. Et en fait, Paul, ou le Nouveau Testament, nous met en garde la façon dont nous avons nos couples, nos foyers. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vent, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et là, il a marqué, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Pourquoi le diable se détermine tellement à détruire les foyers, mes amis? Pourquoi est-ce que le taux de divorce augmente? Pourquoi les hommes et les femmes ont du mal à s'engager? Tout simplement parce que le diable ne veut pas qu'il y ait des foyers solides. Et parce qu'une fois qu'il a détruit les foyers, il a détruit la source. Que les femmes âgées d'eux-mêmes aient un comportement qui convienne à des personnes consacrées. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves des excès de vin. qu'elles enseignent le bien afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer mari et enfant, à être pondérées, chastes, occupées aux travaux domestiques, bonnes, soumises à leur mari, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. C'est le même texte que tout à l'heure, sauf que c'est Parole vivante qu'il a écrit. Alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. Vous imaginez que tous ces textes nous rappellent que finalement, celui qui est capable de changer nos vies, celui dont nous professons qu'il est capable de changer nos vies, c'est la parole de Dieu et que, manifestement, souvent, nous ne le faisons pas. C'est un défi. On veut que l'Église se multiplie, on veut qu'il y ait plus de gens qui nous voient, plus de gens qui viennent à l'Église. Mais mes amis, que montrons-nous ? Qu'avons-nous à leur présenter ? La famille en danger. Car pour garder les familles face aux attaques, il faut garder la sienne en bon état, n'est-ce pas? En 2010, en France, il y a eu 251 000 mariages, 130 810 divorces, soit 46,2%. En 2005, 52,3%. En 2009, pour 252 000, il y en a eu 127 578 qui se sont arrêtés. Ce qui est intéressant, au début du XXe siècle, en 1914, le taux de divorce était environ de 3%. Et alors, j'ai partagé avec les amis vendredi, j'avais trouvé intéressant un commentaire qui était donné sur la position de 1914. Il est marqué « Oui, mais en 1914, tromper son mari, c'était même pas bien vu. Avoir des enfants hors mariage, c'était pas bien. Être homosexuel, c'était encore pire. Heureusement, nous avons évolué. » Heureusement, nous avons évolué. 50% de divorces, des enfants sur toute la planète, et l'homosexualité comme critère de base. On a évolué, oui, si on peut dire. Non, on a mis Dieu de côté, on a mis les valeurs de côté. N'est-ce pas ? Et on appelle ça l'évolution. On a scié la branche sur laquelle on était. Hein. Nos familles sont en danger. Alors les jeunes, il n'y en a pas trop ici ce matin. Si, il y en a partout. Toutes les chaises, c'est plein de jeunes. Exhortent de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. Nos jeunes subissent des pressions terribles, mes amis. Pour être conformes aux autres. Tu vas pas me dire que tu fais ça, toi. Et tes parents, ils t'obligent ? Eh ben, dis donc. Ça doit être terrible chez toi. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés. Les jeunes gens doivent être sobres, discrets, car plusieurs s'exposent eux-mêmes à de fatales tentations pour ce qui n'est que le commencement d'un manque de discrétion. Ils sont capables d'être ardents, étourdis. C'est pourquoi ils sont pris instamment d'être sobres. Il y a plus de jeunes gens ruinés par l'orgueil que par n'importe quel autre péché. Le monde les aspire, mes amis. Ils sont sous une pression terrible. Internet. L'autre jour, je lisais un commentaire sur une page web où une jeune fille de 13 ans se plaignait que ses parents allaient voir ce qu'elle regardait sur son web. Et elle disait « Mes parents m'espionnent !» On n'espionne pas, on préserve. C'est notre rôle. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants se détruire. Nous ne pouvons pas laisser le diable en prendre possession. Il n'a rien fait. Vous savez quelque chose, il faut le répéter ensemble. Le diable n'a rien fait. Rien pour nous aider. Rien pour être notre propriétaire. Rien. Dieu a donné sa vie à notre place. Il a payé à notre place. Il a pris mes péchés et il les a jetés au loin. Ça ne vaut pas la peine ? C'est lui mon maître. 1 Timothée 5,11 « Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leurs désirs se raniment et les éloignent du service de Christ. Elles veulent alors se remarier, encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement de service qu'elles avaient pris auparavant. Et après cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire. Elles passent leur temps à aller de maison à maison, pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. » On a l'impression que Paul, il vivait au XXIe siècle. Hein. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage, afin de ne pas prêter le flanc aux critiques, j'aime cette phrase, de nos adversaires. Il y en a hélas déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Un peu croiser les mains, c'est Proverbe 6, hein. Va vers la fourmi paresseux. Je présume que monsieur Jean de La Fontaine, il a dû s'inspirer du Proverbe 6, même si lui, il n'était pas chrétien du tout. Mais rien faire, ça amène à la tentation. Et Paul souhaitait que les jeunes qui avaient déjà été mariés une fois, qui étaient veuves, se remarient pour qu'elles ne passent pas leur vie à rien faire. Le désœuvrement amène la tentation. Et la tentation, la chute. Et le diable vient souvent, hein, alors que nous sommes désœuvrés. Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Et toi, je l'aide. N'en te fais jamais rien. On est en train de penser à quelque chose. Et souvent, c'est ceux qui disent souvent rien, sont en train de penser à des trucs terribles. C'est pas parce qu'on a la bande. Séduction et tromperie. De Timothée 3,6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur follet des écervelés. Vous avez vu ? Écervelés, il y a ES. Il ne parle pas des hommes, là. Ah, je suis désolé, pas moi qui ai écrit la Bible. Hein. Chargés de péché et agités par toutes sortes de désirs. Ce n'est pas un seul verset, là, hein, mes amis. Je ne suis pas en train de faire une théologie sur un seul verset. Hein. Mais quand Dieu veut l'ordre, il a quelque chose en... Ici, il est en train de dire, « Mesdames, vous avez dit que vous voulez servir Dieu, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie ?» Mesdames, vous êtes celle qui a chuté la première, celle que le diable est venu tenter. Oui, monsieur Adam avait pris un RTT ce jour-là, et il aurait dû être là. Oui, il ne vous a pas aidé dans la décision, mais c'est vous qui avez été séduite. Et le diable revient fréquemment. Et c'est comme ça que les désirs reviennent. Toujours en train d'apprendre sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. Le diable nous trompe. Alors 1 Timothée 2,13 dit « Car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Le rappel du dessein du Créateur du montre clairement que Paul ne fonde pas ce qu'il dit simplement sur la place assignée à la femme dans la société de son temps. Il se réfère plutôt à un principe d'une portée universelle et permanente. Le monde a été ainsi fait, mes amis, et on paye le prix. Et si Dieu demande de protéger nos épouses comme un sexe plus faible, ça ne veut pas dire que vous êtes mis à part, des choses à part, des choses qu'on met en cage, dans une cage dorée. Mais c'est parce que Dieu prend soin. Et il a créé l'homme et la femme. Et il veut qu'ensemble, ils parcourent leur chemin de la bonne façon pour qu'ensemble, l'évangile se propage. Si Dieu avait décidé que, d'après notre conception, nous étions des échecs, Dieu aurait-il donné son Fils unique ? Mais il a créé l'homme et la femme, il a dit, c'était bien. Et aujourd'hui, il veut que ça fonctionne bien. Mais il y a une réalité permanente qui est là. Et cette réalité permanente nous fait que nous devons prendre soin les uns des autres. Et que chacun doit respecter sa place pour que l'évangile soit communiqué. Parce que si nous disons que c'est la parole de Dieu, alors vivons-la. Dans 2 Timothée 1,5, Paul dit à Timothée, « Je me remémore ainsi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice, j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. » La grand-mère, la mère, a communiqué aux enfants. C'est un ministère extraordinaire, n'est-ce pas ? De pouvoir communiquer aux enfants. Et c'est extraordinaire de voir souvent quand il y a un ministère parmi les enfants, combien les femmes sont plus là que les hommes. J'ai rarement vu dans les ministères d'école du dimanche beaucoup d'hommes. Les clubs Bonne Nouvelle du mercredi, messieurs, j'espère que vous êtes au travail. En tout cas, les dames sont là. Dans Tite 2.3, il dit que les femmes âgées, on l'a lu tout à l'heure, de même aient un comportement qui convienne à des personnes consacrées, mais qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer. Femmes, mari et enfants. Dieu a donné un ministère aux femmes. Ministère d'enseignement aux enfants, aux dames. Mais c'est à prendre en charge, mes amis. On a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans notre monde, on veut tout mixer, tout inverser, tout changer. Et beaucoup de jeunes filles se laissent avoir. Beaucoup de jeunes garçons partent à la dérive. Parce qu'il n'y a plus d'enseignement, parce qu'on les laisse faire. Parce qu'on baisse les bras. Mais Dieu nous a donné à chacun un ministère particulier. Et il nous défie. Peut-être on ne le remplit pas aujourd'hui. Peut-être on a du mal. Peut-être on se dit, oh, mais je ne suis pas doué, je ne suis pas compétent pour le faire. Mon mari est mieux, l'école est mieux. Vous savez que Dieu n'a pas donné à l'Église, en tant qu'entité là, d'élever nos enfants. Mais si Dieu nous a donné les enfants, c'est pour qu'on les élève, nous. C'est Dieu qui nous fait cette grâce. Souvent, on voudrait que ce soit les autres qui fassent les choses à notre place. Et puis, si ça marche bien, on se dit, ah, c'est bien. Puis, si ça marche pas, vous avez perdu. Hein. Vous savez, vous regardez l'équipe de foot. Hein, il y a l'Euro bientôt. On va gagner ou ils vont perdre. Ça veut dire que si on gagne, on s'associe. S'ils perdent, on les dissocie. Et nous avons le privilège d'avoir dans nos mains la parole de vérité. Et ici, de transformer à nos enfants, à ceux qui sont la génération d'à côté de nous, pour que l'Évangile avance. Vous imaginez si Timothée n'avait pas eu une grand-mère, une mère, qui lui ait parlé de l'Évangile ? Paul ne pourrait pas lui dire ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces textes ? Alors, conclusion, parce qu'il est déjà l'heure, nous avions vu la place centrale et vitale de la femme dans l'expansion de la bonne nouvelle. Nous avions fixé 6 points. Concernant le foyer, le partenariat, l'engagement. Aujourd'hui, on a franchi un pas de plus, notamment dans le domaine de l'enseignement aux enfants et aux dames. On a vu tout à l'heure, hein. Je n'ai pas vu beaucoup d'hommes monter. Heureusement, parce que sinon, il n'y avait plus personne ici. Nous avons parcouru des textes bibliques concernant les relations à Christ. Il est le chef. Il est la tête. Relations concernant les autorités. Mari-femme, parent-enfant, employeur-employé, revue la tentative de destruction du diable concernant les familles, les individus, par conséquent, l'Église. Tenons-nous sur nos gardes. Dieu nous donne les moyens de résister. Alors j'ai choisi pour terminer un verset un peu compliqué. Il est parlé de la femme. Il est dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Si elle demeure dans la foi, l'amour et la consécration avec pondération. Et en fait, quand vous lisez votre Bible, le « elle demeure » est au singulier. Or, dans le texte original, ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel. Parce qu'elle sera sauvée néanmoins en devenant mère, il est parlé de Marie, la mère de Jésus. Vous savez, dans Genèse 3.15, Dieu a fait une promesse. Il a dit « De la postérité de la femme naîtra celui » qui doit sauver le monde. Et c'est Marie qui l'a accompli. Et les femmes, d'après ce que Marie a fait, peuvent, les hommes aussi, hein, mais les femmes peuvent rentrer dans la foi et connaître la foi, l'amour et la consécration et la pondération. Il y a un chemin à faire. Parce que si ce texte disait que la femme serait sauvée en devenant mère, ça veut dire que les célibataires, les sans-enfants, ils ne sont jamais sauvés. Alors j'ai travaillé longtemps hein, pour trouver la signification du texte. L'enfantement de Marie, accomplissement de Genèse 3.15, a rendu possible aux autres femmes de rentrer sur le chemin de la foi, de l'obéissance, pour le bien de l'Évangile. Et je termine avec cette question, y êtes-vous en train d'obéir, comme à Christ, pour le bien de l'Évangile? On va prier. Seigneur notre Dieu, toi, tu es un Dieu d'ordre. Tu es le Dieu qui nous a créés. Tu es le Dieu qui nous connaît bien. Tu es le Dieu qui sait exactement ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas compris. Et dans ces études que nous voulons faire le dimanche pour rappeler le rôle des dames. Seigneur, ce matin, tu veux encore toucher des cœurs. Nous avons eu la joie ce matin de savoir qu'un couple s'était mis en ordre. Seigneur, c'est ta volonté. Tu ne nous demandes pas de vivre dans l'adultère, tu ne nous demandes pas de vivre des relations cachées, des relations infâmes, mais toi, tu as préparé des choses extraordinaires. Et je veux te demander, Seigneur, que tu puisses toucher encore d'autres cœurs. Que ceux qui ne sont pas encore sur le chemin de la foi puissent y rentrer. Que ceux qui ne sont pas sur le chemin de l'obéissance, Seigneur, tu puisses leur pardonner et tu puisses toi les convaincre. Que ceux qui ne sont pas encore sur le chemin du service, service dans leur vie, service dans leur vie de femme, service dans leur vie d'épouse, service dans leur vie de mère, service dans leur vie d'employé, de citoyenne. Seigneur, tu as tellement de domaines dans lesquels notre relation avec toi a un impact. Alors ce matin, je veux te présenter toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui sont dans cette église. C'est toi qui les as amenées, c'est toi qui connais exactement là où elles sont. Et Seigneur, comme je le fais le dimanche, Seigneur, je veux juste leur proposer qu'elles lèvent la main vers toi. Si elles ont envie de rentrer sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la persévérance, sur le chemin du service. Peut-être ce matin vous avez été touché. Chaque dimanche, les gens sont touchés par quelque chose. Et peut-être il y a quelqu'un qui ce matin veut se demander à Dieu de l'aide pour rentrer dans un de ses chemins. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, 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 oui. Beaucoup de sœurs ont été touchées. C'est Dieu qui parle. Mais vous avez entendu, messieurs, ce matin, Dieu aussi nous demande de prier sans élever la colère, en aimant nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, peut-être, je m'adresse à vous aussi, hein, que le message ne reste pas « c'est pour nos épouses ». Alors, une dernière fois, est-ce que quelqu'un aimerait que je prie pour lui, pour elle, pour simplement que, voilà, que Dieu vous bénisse ? Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ces paroles qui ont permis que des sœurs majoritairement soient touchées. Tu vois leur cœur, tu vois où elles sont. Et Seigneur, tu nous demandes de ne pas les juger, mais simplement de prier pour elles, pour que leur vie soit en conformité. C'est toi qu'elles ont appelé ce matin. Et je te demande vraiment de les bénir, de passer ton baume sur leur cœur, Seigneur, et de leur donner les moyens d'agir. Qu'elles puissent aussi communiquer ces choses, si elles ont des problèmes, des difficultés, pour mettre en ordre toutes ces choses. Qu'elles n'hésitent pas à poser des questions aux plus âgés, aux responsables, afin, Seigneur, que ta vie soit évidente dans les leurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.